France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment prendre soin de son ventre? Comment chouchouter son estomac, son foie, ses intestins, son pancréas? Comment prévenir et soigner durablement les ballonnements, la constipation, les diarrhées, les brûlures d'estomac, les remontées acides? Bref, tous ces maux de ventre qui peuvent entraîner une mauvaise absorption des nutriments, un mauvais sommeil, expliquer une colopathie fonctionnelle ou encore annoncer des pathologies plus graves. Nous partagerons les meilleurs conseils pour bien digérer et prendre soin de son ventre, notamment de son microbiote intestinal. Nos expertes et experts répondent à toutes vos questions sur le ventre au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur Pauline Guillouche.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et hépatologue à la clinique Jules Verne de Nantes. Vous êtes spécialisée dans la prise en charge des maladies du foie. Vous êtes connue sous le pseudonyme de Pauline Hépato sur les réseaux sociaux. Vous êtes très suivie et vous publiez chez Vuibert « Décrypter votre ventre », le guide pratique qui révèle les secrets et les couacs de votre système digestif. Bonjour Benoît Chassin.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en physiologie et génétique moléculaire, directeur de recherche à l'Institut Pasteur et chef du groupe Interaction Microbiote Hôte. C'est quoi exactement ce département? Expliquez-nous en quelques mots.
Alors, au sein de l'Institut Pasteur, je suis dans le département de microbiologie. Et du coup, on s'intéresse à certaines bactéries pathogènes, à certains agents infectieux, mais aussi à certains écosystèmes, et notamment le microbiote intestinal.
On saura tout sur le microbiote intestinal grâce à vous tout à l'heure. Alors, docteur Pauline Guillouche, vous proposez de mieux comprendre les secrets de notre système digestif pour mieux prévenir et soigner nos maux de ventre. Votre particularité, c'est qu'en 2024, on vous a diagnostiqué deux maladies chroniques dans votre propre spécialité. Et vous retrouver de l'autre côté du miroir, en tant que patiente, vous a permis de mieux comprendre ce que disaient les patients.
Ben c'est certain. Se retrouver de l'autre côté du bureau, ça fait tout drôle. Mmh. Et je crois qu'on développe une empathie encore plus importante que celle qu'on avait avant. Alors ça concerne plein de médecins finalement. Hein. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on n'est jamais patient. Et effectivement, ça a changé pas mal de choses. Une plus grande proximité avec mes patients, et il y en a même certains à qui je le dis.
Alors faisons un peu de pédagogie avant de s'intéresser aux maux de ventre. Le système digestif débute dans la bouche avec la mastication, il se termine en bout de course à la selle. Ce système digestif comprend à grand trait l'œsophage, l'estomac, le foie, l'intestin grêle, le côlon, le pancréas, la vésicule biliaire, le rectum, l'anus. Pour bien comprendre ce système digestif, racontez-nous ce qu'il se passe quand je croque dans un morceau de pain, dans un morceau de baguette beurrée avec un peu de confiture. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, tout ce qui se retrouve dans la bouche va être mâché, malaxé, ensalivé dans la bouche. Donc vraiment, la première étape de la digestion, c'est important de comprendre que ça commence vraiment dans la bouche.
On a tendance à l'oublier, ça, docteur Guillouche, que
totalement.
Ça commence dans la bouche et que ça commence par la mastication, avec ce rôle essentiel de la salive.
Oui, et en plus, on a tendance à l'oublier, même nous, gastro-entérologues, parce qu'on ne s'occupe pas vraiment de la bouche. Donc là, j'en parle dans le livre, mais c'est vrai que moi, au quotidien, je ne parle pas beaucoup de ça. Finalement, il faut en parler, il faut prendre son temps pour manger. Par exemple, un tout petit exemple, la satiété arrive au niveau du cerveau au bout de 20 minutes. Donc si vous boulettez votre repas en 10 minutes, vous n'avez même pas la sensation de satiété. Et donc vous allez manger beaucoup plus que si on prenait son temps.
Et pourquoi la digestion donc, se prépare dès cette longue mastication? Expliquez-nous pourquoi c'est si important de ne pas avaler tout rond.
Alors déjà, il y a l'action de la mâchoire, des dents qui va venir un gros morceau, on va le réduire en tout petits morceaux. Et puis il y a l'action de la salive. Il y a déjà une enzyme dans la salive qui s'appelle l'amylase salivaire qui va commencer à digérer les sucres de ce que vous mangez. Donc vraiment, la digestion, elle commence dans la bouche.
Alors après être passé par l'œsophage, notre morceau de pain beurré se retrouve dans l'estomac avec deux grandes fonctions de l'estomac, la production d'acidité et le brassage.
Oui. Exactement, c'est comme un espèce de mixeur, hein, tout ça.
Donc il vaut mieux que ça soit bien mastiqué avant.
Ah ben, exactement, bien sûr, pour augmenter l'action de l'estomac, il vaut mieux avoir des petits morceaux. Donc on appelle ça déjà votre morceau de pain, quand il est dans la bouche, il passe dans l'estomac, on l'appelle le bol alimentaire. Et puis puis il va être réduit à ce qu'on appelle en chyme, donc cette fois-ci en tout petits morceaux. Et donc il y a l'action des sucs gastriques, hein, dont on entend souvent parler. Donc c'est, il y a une action multiple, mais il y a aussi de l'acide, hein, c'est un environnement extrêmement acide.
C'est avec l'acide chlorhydrique ?
Oui, la production d'acide chlorhydrique par l'estomac qui va permettre comme ça de continuer cette fonction de digestion.
Et en moyenne, ça reste 2 à 6 heures dans l'estomac, c'est ça ?
Oui, c'est très variable. Les liquides, par exemple, comme l'eau, vont passer très vite en fait, au niveau de l'intestin grêle. Et puis par contre, quand on mange une raclette, un repas très gras, vous savez, la raclette le soir qui pèse sur l'estomac, c'est tout à fait ça, puisque du coup, la digestion, en tout cas le passage dans l'estomac, est beaucoup plus lent et plutôt proche de 6 heures.
Qu'est-ce qui est le plus difficile à digérer ? Parce qu'on mange pas on ne déguste pas des raclettes tous les jours. C'est quoi ? C'est les protéines ? C'est les graisses ?
Là, c'est le gras. Pour le coup, c'est vraiment l'effet du gras dans du fromage.
Qu'est-ce qui se passe après le passage dans l'estomac ? Ça se retrouve, donc, ce bol alimentaire se retrouve dans l'intestin grêle, c'est ça ?
Donc, juste après l'estomac, vous avez la première partie de l'intestin grêle qui s'appelle le duodénum, qui fait quelques centimètres. Mmh. Et là, le duodénum, il est branché à la fois au canal de la bile. Donc, il va recevoir la bile qui est fabriquée par le foie. Qui participe aussi à la digestion, pour le coup, des graisses. Il est aussi branché, ce duodénum, au pancréas. Donc, on a aussi les enzymes du pancréas qui viennent digérer ce chyme qui arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, ça continue après avec l'iléon, avec le jejunum, pardon, puis l'iléon. Donc ça fait 6 à 7 mètres. Hein, c'est très, très long.
6 à 7 mètres.
Oui.
Et donc, le rôle de cet intestin grêle, c'est donc de poursuivre le travail de digestion en continuant à réduire notre bol alimentaire. Mais son deuxième rôle essentiel, c'est d'absorber les nutriments issus de la décomposition de ce bol alimentaire.
Oui, et c'est principalement son travail, en fait. Cet intestin grêle qui est très long, en plus, il est très long, mais quand on regarde en détail, on voit qu'il y a plein de petites villosités, c'est-à-dire de replis à l'intérieur de cet intestin grêle pour maximiser finalement la surface d'absorption. Et donc, oui, tous les nutriments, les minéraux, etc. sont absorbés dans notre intestin grêle.
Est-ce qu'il y a un microbiote dans l'intestin grêle ?
Ouais, en fait, il y a vraiment un microbiote de la bouche à l'anus, alors qu'il est vraiment très très différent. Dans les parties hautes, on va avoir très peu de bactéries, très peu de diversité, de complexité. Et inversement, dans les parties basses, notamment dans le côlon, dans le gros intestin, on va avoir un microbiote qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié.
On peut rappeler à cet instant de l'émission ce qu'est exactement le microbiote intestinal ?
Alors, le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait avant la flore. Hein. Ça va être ces centaines et ces centaines d'espèces bactériennes différentes qui vont nous coloniser. Vraiment, il faut voir le tractus gastro-intestinal comme connecté à l'environnement, connecté à l'extérieur. Et la nature n'aimant pas le vide, et ben voilà, on a toutes ces bactéries, virus, champignons qui colonisent le tractus gastro-intestinal. Et on parle ici de centaines d'espèces. Et en termes quantitatifs, on estime à 100 000 milliards de micro-organismes qui nous colonisent.
Et le gros de ce microbiote intestinal se retrouve donc dans le côlon, c'est ça ? Ou gros intestin, donc après l'intestin grêle, tout se retrouve, entre guillemets,
dans le côlon.
Et c'est quoi la principale fonction ? C'est de réabsorber l'eau et les sels minéraux, ce qui a pour but de compacter les sels.
C'est ça, il a une fonction de réabsorption d'eau principalement. Il réabsorbe entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour, donc ce qui permet de nous éviter d'avoir effectivement 1 à 2 litres de sel par jour, donc c'est effectivement extrêmement important.
Benoît Chassin.
Et juste pour finir sur la présentation assez générale du microbiote, c'est que malgré cette complexité, tous ces organes, on vient d'en parler, qui sont très importants pour la digestion, on le voit bien, on a quasiment 10 mètres de tuyaux avec plusieurs organes, le foie, la vésicule biliaire, etc. Malgré toute cette complexité, on n'est pas capable, nous, de digérer l'entièreté des aliments qu'on va ingérer. Et on a besoin de notre microbiote pour digérer certains de ces aliments, notamment les fibres, pas uniquement. Mais voilà, on commence d'apprécier un peu le rôle de ce microbiote intestinal.
Il y a un organe qu'on n'a pas évoqué, qui est pourtant essentiel, c'est le foie. Quel est le rôle du foie dans le système digestif et dans ce morceau de baguette beurrée ?
Alors le foie, c'est...
Que vient faire le foie dans toute cette histoire ?
Alors, le foie, c'est mon organe chouchou, très clairement. Il est complexe, il est multiple. Déjà, la première fonction, c'est la fonction de synthèse de certaines protéines et aussi de la bile qui vient donc digérer notamment les graisses de ce que l'on mange. Il a une fonction dans le métabolisme énergétique. Par exemple, si vous mangez du sucre, que vous n'en avez pas besoin, ou vous en mangez trop, il va le stocker sous forme de graisse. Et l'une des maladies, c'est la maladie du foie gras, hein, qui malheureusement explose en ce moment.
On va y revenir tout à l'heure.
Et puis la troisième fonction, celle qui fait un petit peu plus réagir, c'est la fonction de détoxification, avec cette fonction bien de station d'épuration un petit peu, là encore, de ce que l'on reçoit, par exemple les médicaments qui passent par le foie, l'alcool aussi.
Et donc où se situe le foie par rapport à notre morceau de pain comment il intervient le foie ?
Alors le morceau de pain, clairement, il ne passe pas dans le foie, effectivement, mais par contre, quand il passe dans l'intestin grêle, il y a la bile qui va sortir à cet endroit-là et qui va aider à la digestion de ce morceau de pain.
Il y a un microbiote dans le foie également,
non.
Chassin ?
Non, c'est un organe complètement stérile, le foie.
Tiens, alors revenons donc à notre estomac et à nos maux de ventre. Après avoir mangé un gros repas, c'est normal d'être un peu ballonné. À partir de quel moment ça devient pathologique, cet inconfort dans l'estomac?
Alors, on a tous expérimenté le repas, typiquement les repas de fin d'année, où effectivement on doit dégrafer son bouton, on doit s'étirer un peu parce que l'estomac prend plus de place. Et voilà, donc ça, quand on a des maux transitoires, j'ai envie de dire, qui passent le lendemain ou le surlendemain, pas de problème. À partir du moment où la gêne, voire même la douleur, prend de la place dans son quotidien...
Après chaque repas.
Effectivement, après chaque repas, par exemple, quand la douleur persiste, quand on est, et même j'ai envie de dire, quand on est inquiet par les symptômes que l'on a, alors il faut consulter et en parler avec son médecin traitant. C'est important.
Quelles sont les pathologies de l'estomac les plus fréquentes? C'est l'ulcère gastrique
Alors, on peut rattacher... Alors, l'ulcère, bien sûr. Alors, l'ulcère, on pense toujours que c'est lié au stress. C'est faux.
Alors, c'est une plaie de la muqueuse de l'estomac. Et vous avez une image pour qu'on se rende compte de ce qu'est un ulcère. C'est que ça pourrait ressembler à un aft.
Exactement. C'est un aft plus gros. Mm-hmm. Mais ça ressemble vraiment à un aft. Donc, on va dire un petit cratère comme ça dans la paroi de l'estomac. On peut rappeler quand même que l'ulcère, c'est pas parce que vous êtes extrêmement stressé que vous allez développer un ulcère, ça c'est faux. C'est dans la majorité des cas lié à une bactérie gastrique qui s'appelle Helicobacter pylori. Et puis on a dans une plus petite partie les conséquences de la prise, et notamment de l'automédication, de la prise d'anti-inflammatoires.
Comment ça se manifeste, un ulcère gastrique? On souffre notamment de fortes crampes localisées dans le creux du ventre, avec une sensation de faim, même ça quand peut. On vient de manger. Par exemple, c'est un signal d'ulcère?
Oui, ça peut, c'est ce qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, cette crampe douloureuse. Et puis parfois, on a des patients qui n'ont quand même pas de symptômes, ou alors qui vont présenter des vomissements de sang ou du sang digéré dans les selles.
Le vomissement de sang, ça peut être un ulcère.
Ça peut être un ulcère hémorragique, ça fait partie des urgences digestives. Oui.
Et nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour, je suis très contente d'être en ligne. J'écoute très régulièrement vos émissions et j'apprends beaucoup de choses.
Merci, c'est gentil. À vous, d'où appelez-vous Isabelle ?
À côté de Rennes.
Alors, votre appel concerne votre fille de 20 ans, c'est ça ?
Oui. Nous avons diagnostiqué chez elle une pathologie cœliaque, une maladie cœliaque, alors qu'elle avait 4 ans et demi. Depuis qu'elle était petite, elle refluait énormément. Donc, elle a été beaucoup traitée par des pansements gastriques divers. Et bien sûr, à partir du moment où cette maladie a été diagnostiquée, nous avons totalement arrêté l'alimentation à base de blé et tous les dérivés de blé. Mmh. Et malgré... Alors, ça l'a soulagée, hein, certes, un petit peu. Mais malgré ça, elle a quotidiennement le ventre ballonné, des diarrhées, régulièrement encore des reflux gastro-œsophagiens, et ça la rend tendue par rapport à son alimentation, c'est-à-dire que dès qu'elle est un petit peu mal, hein, la ceinture qu'on dessert chez elle, c'est tous les jours, donc dès qu'elle est mal, elle se pose la question et elle se culpabilise par rapport à son alimentation. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Comment aurais-je dû faire? Voilà. Bien sûr, il y a des symptômes annexes, c'est-à-dire une grande fatigabilité, des maux de tête, et tout ça, je précise bien, sans jamais absorber la moindre trace de gluten.
Et donc avec des répercussions évidemment sur son moral, sur sa santé mentale, vous l'avez évoqué. Pauline Guillouche, rappelez peut-être ce qu'est la maladie cœliaque.
Donc la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire qu'on va fabriquer en fait des anticorps contre la protéine qui est dans le blé, la gliadine. Et donc cette maladie auto-immune, effectivement, elle peut arriver à n'importe quel âge. Là, à 4 ans, très 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 jeune, ça peut arriver aussi à 30 ans, à 50 ans ou même à 70 ans. Et ça se caractérise, dans la majorité des cas effectivement, par l'apparition de troubles digestifs, notamment par des diarrhées, parfois des symptômes qui sont beaucoup plus complexes. En tout cas, c'est quelque chose que nous, en tant que gastro-entérologues, on cherche assez fréquemment, puisque ça concerne quand même quasiment 1% de la population française. Donc, c'est pas quelque chose de si rare que ça. Et le seul traitement, c'est l'éviction totale et durable, donc à vie, du gluten. Mais le gluten, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il est présent donc évidemment dans le blé, mais aussi dans le seigle, dans l'orge. Et puis, il y a de l'avoine qui peut être contaminée par le blé. Donc, c'est un régime drastique, extrêmement
contraignant.
Donc,
il y a une charge mentale.
Ah oui, oui. Alors là, on imagine 4 ans, puis l'adolescence, qui est une période quand même difficile, puis la période de jeune adulte. Donc là, effectivement, dans le cas de cette jeune fille, ce qu'il faut absolument, absolument vérifier, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'anticorps dans le sang, les anticorps qui sont les marqueurs de la maladie cœliaque, pour être sûr déjà que ce côté maladie cœliaque soit bien contrôlé par l'alimentation. Moi, j'ai plein de patients qui, malheureusement, se font avoir sur leur régime par des contaminants, quand ils vont, dans les placards, par exemple, quand on est en famille et qu'il y a quelqu'un qui est cœliaque, il faut séparer les placards,
ah bon,
par exemple. Oui, parce que les farines, c'est volatile.
D'accord.
Et donc, on peut être contaminé très, très vite. Ouais.
Qu'est-ce qui doit alerter quels sont les symptômes d'une maladie cœliaque
On peut dire déjà donc, tout changement un petit peu digestif. Et ça, c'est valable pas que pour la maladie cœliaque. D'un point de vue, on va dire, maladie, quand il y a un changement dans la digestion qui est assez brutal et assez inexpliqué, là encore une fois, il faut consulter, ça vaut le coup d'aller chercher.
Alors, Isabelle nous a parlé de maladie cœliaque, mais j'entends de plus en plus parler d'intolérance au gluten non cœliaque.
Oui.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors là, la différence, c'est qu'il n'y a pas une maladie auto-immune qui est liée à la protéine, mais là, on a une intolérance à un sucre qui est dans le blé, notamment les fructanes du blé. Et effectivement, ces sucres, ils sont peu digérés par notre intestin et ils se retrouvent au niveau du côlon et ils participent du coup ils arrivent dans ce côlon avec le microbiote, etc.
Et donc là,
ils peuvent ballonner, par exemple, donner des symptômes.
Les symptômes, c'est les ballonnements.
Ça peut être de la diarrhée aussi, ça peut être de la douleur.
Benoît Chassin.
Oui, ça c'est très en lien avec le microbiote, c'est-à-dire qu'on a tous vraiment un microbiote qui nous est propre, on a tous un microbiote qui est notre signature, notre carte d'identité microbienne, si je puis dire, au niveau du ventre. Et en fonction des bactéries qu'on a en nous, qui vont évoluer au cours de notre vie, on va pouvoir plus ou moins bien digérer ces fibres qui vont arriver au niveau du côlon. Et du coup, c'est vrai que chez certains patients, ça peut conduire à des ballonnements assez sévères.
Donc il y a un lien entre l'intolérance au gluten non cœliaque et le microbiote intestinal ?
Oui, alors il y a encore beaucoup de recherches qui sont en cours, hein, notamment chez des patients atteints de certaines pathologies. On montre qu'un microbiote, justement, dans ces pathologies, notamment la maladie de Crohn, un microbiote altéré en lien avec l'inflammation chronique va conduire à un microbiote qui va bien moins tolérer l'incorporation de fibres et de gluten. Il y a encore beaucoup de recherches qui sont en cours sur ces aspects.
Là, dans l'intolérance au gluten non cœliaque, c'est l'éviction du gluten également ?
Alors, de façon beaucoup moins drastique, on l'a compris, que dans une maladie cœliaque où vraiment c'est interdit. Par exemple, quand on a une intolérance effectivement au gluten, une intolérance donc non cœliaque, ce qu'on peut effectivement dire, c'est de réduire la proportion de gluten. Et parfois, du coup, cette avoine, par exemple, qui peut être contaminée par le blé, là, généralement, c'est bien toléré. Donc, on est sur des régimes qui sont effectivement un peu moins drastiques. Encore une fois, moi, je suis pas pour les régimes drastiques. Attention, parce que ça peut apporter aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire, sauf effectivement dans le cadre de la maladie cœliaque.
Un dernier conseil pour la fille d'Isabelle sur cette charge mentale qui pèse sur cette jeune fille de 20 ans.
Alors, Je vais citer l'association l'AFDIAG, hein, l'association des Français qui ont cette maladie cœliaque ou qui sont intolérants au gluten, qui est vraiment très 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 active et qui apporte beaucoup pour les patients.
Recitez-la.
L'AFDIAG, A-F-D-I-A-G.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. On continue à s'intéresser. Oui, pardonnez-moi, allez-y, pardon.
Oui, je voulais juste préciser que chez moi, il n'y a absolument pas de gluten. J'ai un moulin, je fais ma propre farine. Il n'y a aucun aliment contenant de gluten dans les placards depuis qu'elle a 4 ans. Nous avons, nous tous, adopté ce régime alimentaire. Et malgré cela, elle a toujours des symptômes.
Oui.
Et nous connaissons bien sûr l'AFDIAG, hein, on est adhérents.
Ça rejoint ce que disait Benoît Chassin sur le fait qu'effectivement, dans des maladies authentiquement, on a probablement un microbiote qui est peut-être altéré, et on le voit dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, on a des patients qui sont parfaitement équilibrés de leur pathologie inflammatoire et qui ont pourtant des symptômes qu'on appelle fonctionnels et qui vont relever peut-être du syndrome de l'intestin irritable.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. On continue à s'intéresser aux maux de ventre et on écoute MC Solar qui sème le vent, récolte le tempo, une chanson sortie en 1991, 10h27 sur Inter.
Un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort c'est de danser. On me traite de traître quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or mais j'ai choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi. Le paramètre est paranormal, que dire, que dalle. Claude MC s'installe, ancré dans les annales. Exemple, le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dire qu'authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le beat pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, créé par un truc un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat, du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Plus de temps tu claques, je suis MC des Carpates, un MC. Vrai authentique sans aucune panique, prêt à frapper, c'est le beat. Alors mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent récolte le tempo. Le pédagogue au vogue au nom de code Solar ou Claude MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur? L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent récolte le tempo.
MC Solar, qui sème le vent, récolte le tempo.
Grand bien vous fasse.
Oui, chef.
Moi, je ne sème mal au ventre.
Vous avez la...
France Inter.
Enfin, vous avez mal au ventre, mon lieutenant. C'est le riz qui était moisi.
Ali Rebbi.
Comment prévenir et soigner les maux de ventre? C'est notre thème ce matin avec la docteure Pauline Guillouche, alias Pauline Hepato sur les réseaux sociaux, et avec le chercheur spécialiste du microbiote, Benoît Chassin. Beaucoup, beaucoup de questions sur le syndrome de l'intestin irritable. Fabienne qui nous demande où en sont les recherches sur le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que le régime sans FODMAPS est nécessaire? Rappelez-nous peut-être ce qu'est le syndrome de l'intestin irritable, qui est une cause de consultation très fréquente dans les cabinets des patho-gastro-entérologues.
Le syndrome de l'intestin irritable, c'est très complexe. Alors cliniquement, ça va se caractériser, si on veut être assez simple, par des troubles liés à la digestion. Donc, on va avoir soit de la diarrhée, soit de la constipation, soit une alternance entre les deux. Des maux de ventre chroniques, hein, c'est pas j'ai mal au ventre une fois tous les 6 mois. Et donc, est souvent associé à des sensations de ballonnement. Et je rappelle que le ballonnement n'est pas forcément quelque chose qui se voit. On peut se sentir très ballonné et pourtant avoir un ventre quasiment plat, c'est un ressenti. Et ça, de façon chronique. Donc, on se trimballe ces symptômes gênants depuis souvent des mois, voire des années. Et c'est ce que les patients nous consultent souvent avec des parcours très, 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 très longs où ils ont essayé déjà plein, plein de choses. Ce qui est important de dire, c'est que le syndrome de l'intestin irritable... Moi, au début de mes années d'étudiante, on n'en parlait pas parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Il y avait d'autres mots, troubles fonctionnels intestinaux, colopathie fonctionnelle, etc. Et puis, on pensait que c'était un peu que dans la tête des gens. Et en fait, c'est complètement faux, bien évidemment. Et on le sait, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, c'est multifactoriel, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en consultation, on ne va pas avoir... une solution à proposer et on va y aller à tâtons parce qu'il y a à la fois un problème de perméabilité intestinale, de sensibilité de viscérale, on va avoir un problème de dysbiose au niveau du microbiote et donc finalement on n'a pas une solution à proposer et on va proposer effectivement on en parlera du régime FODMAPS etc. Et souvent les patients sont perdus par la complexité de tout ça et puis ils aimeraient qu'on leur apporte une solution miraculeuse et malheureusement je suis bien désolée que je n'ai pas.
Un mot sur les FODMAPS qu'évoquait Fabienne, expliquez-nous ce que c'est.
Alors les FODMAPS c'est un acronyme pour parler des sucres qui fermentent justement au niveau de notre intestin et particulièrement de notre côlon et donc ce sont ces fibres qui arrivent quasiment intactes, qui n'ont pas été digérées et qui arrivent dans le côlon et qui vont être responsables de troubles digestifs. Le régime pauvre en FODMAPS, et non pas sans FODMAPS, c'est une piste, effectivement, pour nos patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable.
Benoît Chasson.
Oui, alors pour parler un petit peu du microbiote, et ça va totalement en lien avec ce qui a été dit juste avant, c'est qu'il y a énormément d'hétérogénéité dans cette pathologie. Donc clairement, chez certains patients, il y aurait un rôle central joué par le microbiote. Par différents mécanismes, la mauvaise digestion, notamment des FODMAPS, etc. etc. Notamment aussi en lien avec l'axe intestin-cerveau. Hein. Donc c'est cet axe, et c'est important de noter que c'est un axe bidirectionnel, c'est-à-dire qu'à la fois... Voilà, dans les deux sens. Donc si on a des troubles au niveau intestinal, ces troubles intestinaux vont pouvoir avoir un impact sur notre stress, notre anxiété, notre sommeil, etc. Mmh. Mais ça marche dans l'autre sens. Et qu'on peut avoir ce cercle vicieux, un petit peu, qui se met en place. Encore une fois, chez certains patients, et c'est vraiment une population qui est très, très hétérogène, pour le microbiote, notamment, et pour reparler des FODMAPS, clairement, il y a, chez certains patients atteints de ce syndrome-là, un régime pauvre en FODMAPS n'aura absolument aucun effet, aucun impact bénéfique. Inversement, chez certains patients qui auraient un microbiote qui tolérerait moins, digérerait moins ces fibres, on va pouvoir avoir vraiment quasiment une guérison chez certains de ces patients.
Exemple d'aliments FODMAPS, pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle.
Alors, on parlait du blé, par exemple, puisqu'il y a des fructanes dans le blé. La pomme, par exemple, si on la consomme. Encore une fois, il y a une question de seuil chez les patients. Et c'est pour ça que, quand on envisage de partir sur un régime pauvre en FODMAPS, première des choses, il faut être accompagné. C'est extrêmement important. Accompagné par un ou une diététicienne qui est spécialisée là-dedans. C'est vraiment très important, parce qu'il va y avoir une phase d'éviction et une phase de réintroduction. Et ensuite, la phase, on va dire, de croisière.
Donc, il faut aller voir un professionnel, donc diététicien, nutritionniste, et non pas coach en nutrition ou naturopathe. Voilà.
Voilà, quelqu'un qui a vraiment été effectivement formé. C'est pareil dans les diététiciens, diététiciennes. On a des diététiciens qui vont être spécialisés plutôt d'un point de vue cardiovasculaire. Et bien, ce ne sont pas les mêmes, en fait. Il faut se renseigner.
Et nous accueillons, le docteur Gérald Kirzek. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Vous êtes urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, directeur éditorial du site Doctissimo et chroniqueur à ICI et à Télématin. Est-ce que les douleurs abdominales sont un motif fréquent de recours aux urgences? Et quelles sont les causes les plus fréquentes de ces maux de ventre?
Alors, c'est extrêmement fréquent, c'est-à-dire que la douleur abdominale, c'est vraiment un motif classique de recours aux urgences, c'est un motif classique aussi en médecine générale, et tout l'enjeu, c'est de savoir si c'est urgent ou si c'est pas urgent. J'allais dire, avant même d'aller aux urgences, et puis nous, aux urgences, on va non pas faire le diagnostic, comme on disait, sur le syndrome intestinal, le syndrome du côlon irritable, etc., mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment les urgences quasi vitales. Et dans les urgences, à partir d'une douleur abdominale, il y a évidemment l'appendicite, il y a aussi la péritonite, il y a l'occlusion intestinale, le fait qu'il n'y ait plus de transit, qu'il y ait, ça soit bouché mécaniquement ou après une intervention chirurgicale. On va rechercher aussi des causes vasculaires, il peut y avoir l'anévrisme. Donc tout l'enjeu aux urgences, ça va être très rapidement de pouvoir faire la différence entre une douleur qui serait chronique ou banale et une douleur qui serait potentiellement chirurgicale ou plus embêtante. Et pour ça, on a plusieurs moyens. Vous voyez, par exemple, l'appendicite, c'est plutôt une douleur qui va être localisée en bas à droite. Vous savez que l'abdomen, on peut le diviser en différents cadrans. En fosse iliaque droite, en bas à droite, c'est plutôt l'appendice. En bas à gauche, on va plutôt aller chercher une sigmoïdite, une inflammation du sigmoïde. Donc, on a déjà quelques critères comme ça. Et puis après, d'autres signes qui vont accompagner ces douleurs abdominales.
Et est-ce que, par exemple, on peut ne pas oser aller aux urgences parce qu'on a des douleurs abdominales, faut tout de même y aller.
J'allais dire, autant la douleur...
Parce que là, vous parlez d'anévrisme, que c'est un, ça peut être un symptôme d'anévrisme. Donc, on se dit,
oui,
autant y
on
aller.
S'inquiète.
Oui, autant aller aux urgences.
On s'inquiète et en disant, je vais y aller. Alors déjà, si c'est une douleur qui est chronique, que vous connaissez déjà, il y a déjà eu des épisodes comme ça et vous avez consulté, pas de panique, j'allais dire. En revanche, il y a des critères qui sont des critères où là, il ne faut pas attendre, voire même, il faut appeler le 15 pour avoir un conseil médical à distance. Par exemple, cette douleur, elle est soudaine et elle est violente. Vous voyez, vous ressentez un coup de poignard, c'est insoutenable ou c'est paralysant, c'est pas une douleur banale. Si le ventre est dur, gonflé, tendu, vous voyez, vous le touchez, c'est vraiment très tendu, c'est ce qu'on appelle une défense abdominale ou un ventre de bois, là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je parlais d'autres signes qui accompagnent la fièvre, par exemple, une fièvre supérieure à 38,5 avec des douleurs, des vomissements incoercibles, pire, un peu de sang dans les selles ou dans les vomissements, évidemment, là, on n'attend pas. Et puis, si cette douleur, elle fait suite à un traumatisme, s'il y a eu un coup porté dans le ventre ou si vous êtes enceinte par exemple, évidemment il faut consulter en urgence. En tout cas, c'est le caractère inhabituel de la douleur. Et puis j'en rajouterai un dernier, on parlait d'occlusion, c'est-à-dire c'est bouché, vous savez, le tube digestif c'est un tuyau, quand c'est bouché, eh bien on peut avoir des vomissements, on peut plus rien avaler, il y a plus de gaz non plus. Bref, là il faut faire un examen et généralement l'examen clé c'est le scanner.
Docteur Guihouche.
Oui, l'occlusion, c'est on est au mois de mars bleu, donc j'en profite effectivement pour parler et encourager tous les auditeurs de plus de 50 ans à faire leur test de dépistage tous les deux ans.
Et avec une campagne qui s'appelle Vachier.
Voilà, qui marque. On remercie les associations et la Ligue contre le cancer pour ça. Et effectivement, l'occlusion, ça peut être un motif de révélation rare, je rassure tout le monde, mais assez classique quand même d'un cancer du côlon.
Merci beaucoup, docteur Kirzek, pour vos précieux conseils. Tiens, on parlait de transit. C'est quoi un transit intestinal normal?
C'est très variable.
Et qu'est-ce qui doit inquiéter absolument, docteur Guihouche?
C'est très variable.
Parce qu'un transit anormal peut provoquer des maux de ventre.
Oui, tout à fait, quand on est effectivement constipé. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la constipation, finalement? Donc, on dit que c'est normal. En tout cas, ma société de gastroentérologie dit que c'est normal entre 3 selles par semaine et 3 selles par jour. Encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes, parce que finalement, quelqu'un qui va aller à la selle tous les jours, mais qui va avoir de la difficulté à exonérer, donc à sortir la selle parce qu'elle est dure, elle est compacte et elle fait mal à l'anus, eh bien finalement, c'est quand même un signe de constipation. Donc, on se rassure si on va 2 fois par jour à la selle sans aucune difficulté, c'est normal. Et puis si on va 3 fois par semaine à la selle, mais que ça ne génère aucun maux de ventre, eh bien c'est ok aussi.
Vos conseils pour un bon transit, c'est quoi? C'est bien s'hydrater, consommer suffisamment de fibres, bouger, ne jamais attendre pour aller aux toilettes. Et puis, j'ai lu dans votre livre, adopter le bon angle aux toilettes. Oui. Expliquez-nous un petit peu.
Notre technicien Julien qui
est très étonné par cette technique.
Il faut avoir un petit marchepied pour remonter ses genoux. Attention, il faut vous accrocher. Les genoux au-dessus des hanches. Donc en fait, ça va permettre d'ouvrir l'angle. L'angle, en fait, il y a un angle entre le rectum et donc l'anus. Et donc pour ouvrir cet angle, pour que la selle glisse, si vous voulez, plus facilement, eh bien, il faut remonter ses genoux et ça permet voilà, à la selle de sortir plus facilement.
Benoît Chassan.
Et il y a les fibres aussi, hein, vous l'avez mentionné. Donc les fibres, il y a deux très grandes catégories. Ouais. On va parler des fibres solubles ou des fibres fermentescibles, c'est-à-dire celles qui vont nourrir notre microbiote. Il y a aussi les fibres non solubles ou non fermentescibles, donc par exemple la cellulose, la salade, tout ce qu'on va trouver dans, dans certains légumes, par
dans
exemple,
la première catégorie,
qui vont
on retrouve
vraiment favoriser ce transit, en fait.
Dans la première catégorie, on retrouve quel type de fibres ?
Alors, les bêta-fructanes dont on parlait tout à l'heure, l'inuline...
Dans quels aliments on les retrouve, par exemple ?
Vraiment énormément de fruits, légumes, légumineuses aussi vont être très riches en ces fibres.
Et il faut manger ces deux types de fibres.
Ah oui, les deux sont très importants dans notre quotidien. Ouais, bien sûr.
Et nous accueillons Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous Nathalie ?
Alors j'appelle de Montrouge.
Mm-hmm. Alors vous avez des maux de ventre assez terribles, hein ?
Alors moi j'ai eu des maux de ventre assez terribles malgré le fait que j'ai une alimentation qui est plutôt bien, enfin dans les normes, je mange beaucoup de légumes, de fibres, tout ça va bien, j'avais des maux de ventre assez terribles, je fais aussi de l'activité physique, je bois de l'eau, je m'hydrate, tout ça bien, et en fait j'avais des maux de ventre terribles, des ballonnements, c'était vraiment très très fort, même c'était compliqué le soir pour s'endormir, donc je dormais avec une bouillotte, j'avais du mal à trouver une solution, et puis un jour j'ai une copine qui m'a dit tout bêtement, écoute, essaye les graines de chia. Mmh. Et en fait, parce que moi, je dois manger beaucoup de laitage, parce que j'ai un problème d'ostéoporose congénitale, bref, donc j'ai commencé à mettre des graines de chia dans mes laitages et sur mes salades, et ça m'a changé la vie. Mmh. Donc voilà, je voulais savoir si c'était... une solution ou si c'était...
Non, c'est super, ça fait partie effectivement des fibres. Aujourd'hui, on sait que les Français, ils ne consomment pas assez de fibres. Hein. Les autorités sanitaires préconisent entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. On est globalement à 15-16 grammes par jour, donc c'est moitié moins que ce qui est recommandé. Et effectivement, les graines de chia, mais aussi, moi, c'est mon chouchou, c'est le psyllium blond.
Ah, le psyllium blond, voilà. Il y a une page dans votre livre.
Oui, le psyllium blond.
Vous n'avez pas d'intérêt avec la Société internationale du non,
bon. Non. Ça fait partie de ces fibres qui vont favoriser le transit et puis améliorer notre digestion.
Benoît Chassan.
Ouais, et du coup, le psyllium, c'est extrêmement, extrêmement riche en fibres solubles. C'est 80 ou 90%, si ma mémoire est bonne, de fibres solubles. Donc, ça va vraiment booster votre microbiote, avoir un impact très, très bénéfique sur ce dernier. Je voulais juste revenir sur ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est l'hétérogénéité, le fait qu'on est vraiment, on a tous vraiment un microbiote qui nous est propre, etc. Et qu'en condition de pathologie, par exemple, si on a un microbiote qui est appauvri parce qu'on a de l'inflammation, parce qu'on a pris des antibiotiques, etc., ces mêmes graines de chia, en fait, vont pouvoir aussi conduire à des ballonnements, etc. Donc, ce qui est magique, voilà, juste cette notion que ce qui est magique pour certains peut éventuellement être pathologique pour d'autres personnes.
Alors, nous faisons la promotion des fibres, mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah non, les pois chiches, les lentilles, c'est pas possible, je les digère pas. » Tout un tas de fibres comme ça. On incite le public, le grand public, à manger davantage de fibres. Mais force est de constater que beaucoup ne les digèrent pas, ces fibres.
C'est assez terrible parce qu'effectivement, les gens nous disent j'ai très mal au ventre et pourtant je mange très bien et je mange beaucoup de fibres. Alors effectivement, on n'est pas tous égaux et certains, comme le dit Benoît Chassan, vont manger beaucoup de fibres, ne vont rien ressentir et d'autres beaucoup moins et vont être très gênés. Un petit conseil quand même, quand on veut augmenter sa ration en fibres, il faut le faire très 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 doucement. Très doucement, on va y aller progressivement. Si d'un coup vous mangez les lentilles le midi, un brocoli le soir,
vous en mangez beaucoup,
etc. Waouh, là ça va être quand même un peu compliqué, donc on y va très doucement, mais on peut, avec le temps, y arriver.
Et nous, on travaille au laboratoire, justement, à essayer de comprendre le rôle du microbiote dans tout ça. Et on a des études en cours où on est capable, en fait, en prenant le microbiote de chacun, le vôtre, on est capable de voir à quel point ce microbiote est capable de bien digérer les fibres, de bien avoir les effets bénéfiques des fibres et de s'affranchir des effets négatifs des fibres. Donc voilà, on va de plus en plus vers cette médecine personnalisée en utilisant le microbiote comme un outil diagnostique. En fait, on n'en est pas encore là au niveau individuel, c'est encore de la recherche qui est en cours. Mais voilà, je pense qu'un jour, chez ces patients-là, on pourra avoir ces approches de tests en fait, de microbiote pour savoir quel type de fibres et dans quelle quantité ces patients devraient consommer.
Merci beaucoup Nathalie, on se retrouve dans quelques instants après avoir écouté Mitski, I'll Change For You, 10h45 sur Inter. I'll change for you.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment prévenir et soigner les maux de ventre ? C'est notre thème ce matin dans Grand Bien Vous Fasse, avec la docteur Pauline Guillouche, alias Pauline Hépato sur les réseaux sociaux, et avec le grand chercheur spécialiste du microbiote, si vous êtes un des grands spécialistes du microbiote, Benoît Chassin. Et beaucoup de questions sur la différence entre le syndrome de l'intestin irritable que nous avons évoqué tout à l'heure, et la maladie de Crohn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la maladie de Crohn, et quelles sont les différences entre ces deux pathologies ?
La maladie de Crohn fait partie des maladies inflammatoires chroniques intestinales, autrement appelée MICI, avec entre guillemets sa cousine, la rectocolite hémorragique. C'est une maladie qui est quand même liée à l'immunité. Il y a une pathologie dysimmunitaire, et donc effectivement avec une inflammation, et on va avoir une nécessité de mettre en place, dans la plupart des cas, des traitements immunosuppresseurs ou immunomodulateurs qui vont modifier cette immunité qui se rebelle en quelque sorte contre soi-même, en tout cas contre son tube digestif. Tandis que le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas cette... Alors, il y a parfois une micro-inflammation, mais il n'y a pas les traitements. D'ailleurs, il n'y a pas ces traitements-là hein, pour le syndrome d'intestin irritable. Voilà, ce n'est pas la même, on dit, la même physiopathologie.
Quels sont les traitements, justement, de la maladie de Crohn ?
La maladie de Crohn, donc c'est ça. Soit on va, alors on va avoir des traitements qui vont permettre...
Médicamenteux ?
Voilà, des traitements médicamenteux par immunosuppresseurs, immunomodulateurs. L'idée, c'est d'éviter la survenue de poussées. Ce sont des maladies inflammatoires qui surviennent par poussées avec des phases de rémission. Et l'objectif est d'éviter ces poussées et de maintenir la maladie la plus silencieuse possible.
Julien nous demande quel est le rôle de l'anxiété dans les troubles digestifs, notamment quand on a un trouble de l'intestin irritable.
Ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on sait très bien, via l'axe intestin-cerveau, qui encore une fois fonctionne dans les deux sens.
C'est quoi cet axe ?
Alors, il y a plusieurs mécanismes, mais c'est le fait que l'intestin et notre cerveau peuvent communiquer, notamment via le nerf vague. C'est un des mécanismes. Il y a aussi via les mécanismes inflammatoires, via toutes les petites molécules aussi qui vont être produites dans notre intestin, qui vont pouvoir circuler dans notre sang et comme ça avoir une communication avec notre cerveau.
Et du coup, ça fonctionne dans les deux sens.
Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, il y a des super belles études qui montrent que le stress, l'anxiété peut conduire à des dommages, si je puis dire, intestinaux et qu'inversement, une mauvaise santé intestinale peut conduire à la chronicité du stress et de l'anxiété.
Alors venons-en à cette santé intestinale. Comment expliquer ou comment éviter au maximum une dysbiose ? Expliquez-nous donc en quelques mots ce qu'est une dysbiose et comment prendre le mieux soin possible de son microbiote intestinal.
Alors une dysbiose, c'est quoi ? On y travaille encore. Hein. Le champ de la recherche sur le microbiote a une vingtaine d'années dans ces nouvelles lignes de recherche. Ça fait que 20 ans qu'on travaille vraiment sur le rôle fonctionnel du microbiote. Une dysbiose, c'est quoi ? Ça va être notamment une perte de richesse, une perte de diversité, c'est-à-dire qu'on va perdre un petit peu ces bactéries qui nous veulent du bien au profit de certaines bactéries plutôt pro-inflammatoires et on va avoir cette perte de richesse et de diversité. Donc en général, on dit que pour prévenir d'une dysbiose, il faut vraiment favoriser une alimentation riche et équilibrée pour favoriser justement le fait de nourrir toutes ces bonnes bactéries un petit peu au quotidien. On disait avant 5 fruits et légumes par jour, on est de plus en plus en train de passer aux 25 fruits et légumes et légumineuses par semaine. L'idée étant vraiment de pouvoir nourrir comme ça le lundi quelques bactéries, le mardi d'autres bactéries et pas manger forcément tout le temps les 5 mêmes fruits et légumes tous les jours.
Et donc l'alimentation de type méditerranéenne est idéale
bien sûr
pour nourrir son microbiote en évitant l'alimentation ultra transformée.
Voilà,
évidemment.
Et c'est ce que j'allais dire. Et inversement, éviter l'alimentation ultra transformée. On travaille beaucoup dans mon équipe de recherche sur certains additifs et on a montré que certains de ces additifs, alors qu'ils sont autorisés par les agences de sûreté parce que voilà, ils sont considérés comme étant inoffensifs, en fait, certains peuvent venir tuer certaines de nos bonnes bactéries, favoriser la prolifération des mauvaises bactéries et conduire à de l'inflammation intestinale chronique. Et pour revenir à la maladie de Crohn, on a un essai clinique en cours où justement on a été voir quel allait être l'impact d'enlever ces additifs de l'alimentation et on est capable d'augmenter, de doubler ah oui. les chances de rémission chez les patients atteints de maladie de Crohn. Donc c'est un travail qui est en cours de publication.
Qui sera publié cette année ?
Qui sera publié cette année, on l'espère, on croise les doigts, c'est en phase finale, montrant bien le lien entre alimentation, microbiote et pathologies telles que la maladie de Crohn.
Associé à de l'exercice physique ?
Oui, alors l'exercice physique, et c'est un petit peu toujours pareil avec le microbiote, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Il y a des très beaux travaux qui montrent qu'une activité physique régulière favorise un microbiote riche en bonne santé, et inversement, il y a des beaux travaux aussi qui montrent qu'un microbiote riche en bonne santé, avec la présence de certaines bactéries détoxifiantes, va pouvoir favoriser les capacités sportives, notamment chez les marathoniens, etc.
Et nous accueillons Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous Sarah ?
J'appelle de Lille.
Alors, quelle est votre question ?
Alors, je vous contacte parce que j'ai eu la confirmation récemment que je suis en périménopause. Mmh. Et je suis contente d'avoir cette information parce que je me rends compte qu'il y a peut-être un lien avec mon fonctionnement intestinal parce que depuis quelques années, je vois bien que j'ai une augmentation des ballonnements, constipation, selles irrégulières, le sentiment de vide complet, la gêne abdominale, enfin la sensibilité alimentaire. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans. Et donc, j'aimerais savoir si la science... apporte la preuve qu'il y a un lien entre le dérèglement hormonal de la vie des femmes et la vie du microbiote.
très intéressante question, Benoît Chassin.
Oui, il y a des liens. Alors, en lien avec la ménopause et la préménopause, je ne suis pas au fait, je ne connais pas les travaux. Je sais qu'il y en a, il y a des choses en cours. Par contre, les liens entre hormones et microbiote, ça, ils sont clairement établis. Donc, oui, il y a très probablement des connexions qui ont lieu, notamment chez la femme enceinte aussi. On sait très bien que les changements hormonaux chez la femme enceinte induisent des altérations du microbiote qui peut lui-même participer à la survenue du diabète gestationnel.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Sarah ? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors, vous ne pouvez pas faire de diagnostic à distance, justement les femmes qui sont en périménopause ou en ménopause, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ?
Je pense qu'il faut continuer de garder une alimentation riche et équilibrée et s'écouter au quotidien. Et c'est toujours pareil, et on en a parlé tout à l'heure, en nutrition, il n'y a jamais d'excès. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être excessif ni dans les ajouts, ni dans les apports, ni dans les évictions.
Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose en pratique au cabinet, ça que je vois fréquemment, une modification comme ça de la digestion au moment de la péri et de la ménopause. Il y a une levée des tabous hein, sur la ménopause actuellement et c'est super, parce que peut-être qu'il y aura effectivement plus d'études cliniques sur le sujet, ce qui n'est pas le cas en fait, hein, clairement. Et effectivement, à la ménopause, ou en tout cas en périménopause, il faut aussi, on en revient sur l'activité physique, il n'y a pas d'âge pour commencer à être sportive, et si vous en avez les possibilités, eh bien il faut impérativement rester active à ce moment-là particulièrement.
Merci beaucoup Sarah pour votre appel, nous accueillons Diane pour terminer cette émission. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Je voulais témoigner parce que je souffre de brûlure d'estomac depuis maintenant un an et demi, qui serait a priori dû à une prise d'antibiotiques pendant plusieurs mois à cause de l'acné, les brûlures d'estomac sont apparues après la prise d'antibiotiques, donc c'est l'hypothèse qui aurait causé ces brûlures. Une fibroscopie a révélé que je souffrirais d'une gastrite. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas particulièrement stressée. Et c'est très douloureux aujourd'hui, à tel point que parfois je dois rentrer du travail tellement ça peut être handicapant.
Quelle solution contre les brûlures d'estomac, Pauline Guillouche ? Et d'où viennent la plupart des brûlures d'estomac, les remontées acides ?
Oui, alors il faut effectivement, dans ce témoignage-là, je vais peut-être digresser un petit peu par rapport à ces symptômes, effectivement sur le reflux gastro-œsophagien, qui est cette remontée du liquide gastrique au niveau de l'œsophage, qui n'est pas censé recevoir ce liquide acide, et donc qui peut brûler. Dans la majorité des cas, on a un rapport avec soit le tabagisme, la consommation d'alcool, le surpoids, ou encore un facteur physique favorisant qui est la hernie hiatale, qui est cet estomac qui remonte un petit peu au-dessus du diaphragme alors qu'il est censé être en sous-diaphragmatique. La grossesse aussi est un moment assez propice à ce reflux gastro-œsophagien pour des questions hormonales, mais aussi liées au gros ventre, à l'hyperpression abdominale. Et là encore, il faut supprimer le tabac, l'alcool, si évidemment on en consomme. Attention à la consommation de café et de thé qui viennent ouvrir ce sphincter en bas de l'œsophage et donc favoriser la remontée du contenu acide. Et puis se méfier de tout ce qui est trop pimenté, trop vinaigré, trop acide.
Merci beaucoup Diane pour votre question et je rappelle vos 10 commandements, vos tables de la loi pour bien digérer et prendre soin de son ventre, manger lentement, cuisiner, consommer suffisamment de fibres, s'hydrater, prendre soin de son microbiote, faire attention aux toxiques, bouger, prendre le temps de souffler, de déstresser, écouter son corps, évidemment s'informer. Merci beaucoup Pauline Guillouche, docteur Pauline Guillouche. Je vous recommande Décrypter votre ventre, c'est publié chez Vuibert et on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, Pauline et Pato, c'est ça ?
Merci beaucoup.
Et merci Benoît Chassin, vous reviendrez très bientôt le mois prochain pour parler de microbiote avec le chercheur Tim Spector.
Merci beaucoup.
Une émission à podcaster, à partager sur les réseaux sociaux. Demain, comment repérer une relation toxique ? Bonjour mon cher Nagui.
Bonjour Ali, aujourd'hui c'est Michel Boujna qui est notre invité, fan de Johnny, mais avec deux enfants, comment l'héritage va se passer, c'est le principe de cette pièce de théâtre dont nous parlons aujourd'hui.
Très bonne émission mon cher Nagui.